Avant d'ouvrir la parole de Dieu, on va prier. Je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui es au milieu de nous. Nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais la journée qu'on a pu avoir, la semaine qu'on a pu avoir. Tu sais ce qui nous tracasse et nous voulons tout déposer au pied de ta croix. Tu es suffisant, Jésus. Tu es notre tout. Nous voulons demander que ce matin, tu viennes nous visiter par ton esprit. Donne-nous de comprendre ta parole et qu'elle trouve un écho dans notre cœur, dans notre vie, pour ta gloire, Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans une des plus petites épîtres du Nouveau Testament, l'épître à Philémon. Il y a des zones dans la Bible comme ça qu'on lit moins. Dans l'Ancien Testament, c'est les petits prophètes, hein, Habacuc, Malachie, Sophonie. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'épître de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Philémon qui sont souvent moins lus. Alors, on va ouvrir notre Bible dans Philémon. Je vous laisse le temps d'ouvrir votre Bible. Je vais peut-être donner quelques mots sur le contexte autour de cette épître. C'est une démarche qui est toujours intéressante à faire quand on lit la Bible, surtout avant de lire une épître, c'est de connaître dans quel cadre cette épître a été écrite. Qu'est-ce qui se passait? Quels sont les événements autour? Alors, comme son nom l'indique, c'est une épître, c'est une lettre, comme on pourrait recevoir des lettres dans notre boîte aux lettres, ou pour ceux qui ont une adresse mail, recevoir un mail, sauf des factures, bien sûr. Une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul. Et en particulier, Paul a écrit cette lettre quand il était en prison. Il prêchait l'Évangile, il partageait sa foi, et à l'époque, c'était pas très populaire, ce n'est pas encore aujourd'hui, mais dans l'Empire romain, il y a eu beaucoup d'opposition, et Paul s'est retrouvé en prison à Rome. Et c'est là qu'il a écrit cette épître. Alors, contrairement aux autres lettres dont il est l'auteur, des lettres qu'on connaît bien, l'épître aux Romains, Corinthiens, l'épître aux Galates, cette lettre-ci n'est pas un traité de doctrine. Si vous ouvrez, par exemple, votre Bible dans Romains, les 12 premiers chapitres, c'est difficile à comprendre souvent. Paul parle de réalité, des choses qui sont difficiles à comprendre. Ici, dans cette épître, c'est pas de la doctrine. Ce n'est pas non plus des instructions à transmettre aux églises. C'est une lettre personnelle. Paul écrit à un ami. Et cet ami, c'est Philémon. Alors, peut-être quelques mots sur Philémon. Philémon était un chrétien qui vivait dans la ville de Colosse. Je pense que ça vous dit quelque chose, Colosse. Il y a dans le Nouveau Testament une épître qui s'adresse à l'église là-bas. En fait, l'église de Colosse se réunissait dans la maison de Philémon. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque, on n'avait pas des beaux bâtiments comme ici. Le christianisme débutait et on faisait le culte dans des salons, on pourrait dire, en quelque sorte. Philémon était l'ami de Paul, comme je l'ai précisé, et quand on parle à un ami, on peut parler franchement. Si je parle au roi ou si je parle à un monsieur dans la rue que je ne connais pas, je vais le vouvoyer. Il va y avoir des formules de politesse. Mais si c'est mon ami, je peux parler avec mon cœur. Je peux lui dire les choses franchement. C'est ce que Paul va faire dans cette lettre ici. Philémon était son ami. Philémon était aussi son enfant spirituel. C'est Paul qui l'avait conduit en Jésus-Christ. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont venus à Jésus grâce à un ami. Quelqu'un qui leur a partagé l'évangile, qui a cheminé avec lui. Détail important aussi, Philémon était un chrétien riche. Il avait de l'argent. Sa maison était suffisamment grande pour accueillir une église. C'est pas n'importe qui pouvait faire ça à l'époque. Philémon possédait également des serviteurs, des esclaves. C'est un détail qui pourrait nous choquer aujourd'hui. Il n'y a plus d'esclavagisme, en tout cas ici en Europe. Ça pourrait nous choquer. On pourrait se dire, comment ça se fait qu'un chrétien ait des esclaves? Il faut savoir qu'il y a 2000 ans, la société était bien différente. Dans l'Empire romain, il y avait des esclaves. C'était une société esclavagiste. Souvent, on imagine Rome avec les belles statues, les grands monuments. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'était l'immoralité, l'esclavagisme, l'idolâtrie, société où la femme n'avait aucune place aussi. Et il y avait donc des esclaves. Les historiens rapportent même qu'il y avait des villes où 2/3 des habitants étaient des esclaves. Vous imaginez? 66% de la population qui est propriétaire des 33 autres %. Société esclavagiste. Alors quand la foi chrétienne s'est répandue, quand l'évangile s'est répandu, il y avait des esclaves qui donnaient leur vie à Jésus, qui devenaient chrétiens, et il y avait aussi des propriétaires d'esclaves qui devenaient chrétiens. Et souvent, les chrétiens ne savaient pas vraiment comment gérer ce rapport entre maître et esclave chrétien. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est ça que quand on lit dans le Nouveau Testament, il y a des passages parfois qui disent aux esclaves, « Soumettez-vous à vos maîtres, faites votre travail de bon cœur comme pour le Seigneur. » Et il y a d'autres passages qui disent, « Maître, traitez vos esclaves avec égard, sachant que là aussi vous avez un maître. » Et c'est justement à propos d'un esclave que Paul va écrire cette lettre à son ami Philémon. L'esclave en question s'appelait Onésime. Au moment où Onésime est entré au service de Philémon, il n'était pas croyant. On ne sait pas ce qui s'est passé, la Bible ne donne pas les circonstances, mais il y a eu un clash, il y a eu une dispute, il y a eu un désaccord entre Philémon et Onésime, entre un maître et son esclave. Il y a eu une dispute. Et il semble qu'Onésime ait pris la poudre d'escampette. Il s'est enfui de chez son maître et il l'a fait en prononçant lui vider les poches. Il a piqué dans la caisse de la maison, en quelque sorte. Donc, il faut savoir que dans une société esclavagiste, on ne plaisantait pas avec les esclaves qui prenaient la fuite. Il fallait pas que ça se répande. Il fallait pas que ces idées de liberté se propagent. Ça aurait pu déstabiliser le système. Alors, l'Empire romain avait mis à l'époque en place une garde spéciale qui devait traquer les esclaves en fuite. Quand il y avait un propriétaire d'esclave qui avait un problème, esclave qui prenait la fuite, il appelait la garde et il s'informait et on le traquait à travers l'Empire. Et quand les soldats mettaient la main sur un fugitif, ils faisaient chauffer à rouge un signe particulier et marquaient l'esclave pour que ça lui serve de leçon. Et en même temps, tout esclave qui avait cette marque ne pouvait plus jamais retrouver la liberté. Donc on peut supposer qu'Onésime était peut-être traqué par cette garde ou il est en tout cas en danger. Ensuite, cette garde ramenait l'esclave à son maître et le maître pouvait disposer de son esclave comme bon lui semble. Il pouvait le tuer, il pouvait le battre ou le restaurer simplement. Onésime a donc pris la fuite après avoir volé son maître. Il s'est rendu à Rome et par le plus grand des hasards divins, moi je ne crois pas au hasard, Dieu est derrière toute chose, Dieu est souverain, par la volonté de Dieu, Onésime a rencontré l'apôtre Paul. Alors on peut imaginer, l'apôtre Paul, il est en prison à cause de l'évangile, et en prison il ne se taisait pas, il en a profité pour parler de Jésus-Christ à Onésime. Et Onésime est devenu chrétien. Et c'est dans le cadre de ses conversations avec Onésime que Paul va découvrir ce qui s'est passé. Il va apprendre qu'Onésime est un esclave en fuite, et va se rendre compte que cet esclave était le propriétaire de son ami. Et c'est dans ce cadre-là que Paul va écrire une lettre à Philémon. Bon, maintenant que nous connaissons bien le contexte, eh bien, on va voir ce que Paul pense de la situation. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il va demander à Philémon? Ouvrons notre Bible, Philémon, et nous lirons toute la lettre. Il y a juste un chapitre. Nous lisons ceci au verset 1. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Apphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi Paul qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie. Et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré garder Onésime près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. En tout cas, il l'est particulièrement pour moi, et il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et si Onésime t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. Cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Jésus-Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que ce que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Jusque-là, la lecture. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette épître. Un dimanche ne suffirait pas, c'est pourquoi ce matin, je vais simplement soulever trois idées. Trois idées toutes simples à retenir et qu'on peut mettre aussi en pratique, ou que le texte biblique nous met en pratique de vivre. Première idée, imiter Jésus-Christ. Dans cette lettre, Paul se présente comme un imitateur de Jésus-Christ. Ce qui m'a frappé la toute première fois que j'ai lu l'épître à Philémon, c'est le ton de la lettre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu d'autres épîtres de l'apôtre Paul, en général le ton est grave et le ton est solennel. Paul devait s'adresser à des églises où il y avait du désordre. Il devait reprendre des faux enseignants, des faux prophètes, des gens qui divisaient l'église, des gens qui vivaient dans l'immoralité. On retient par exemple dans 1 Corinthiens 5, Paul qui dit qu'un tel homme se livra à Satan pour le salut de son âme. Sévère. Ici le ton est différent. Paul parle à un ami. Verset 9, il dit « C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. » Paul aurait pu dire « Je suis apôtre, tu es un simple chrétien d'une église, je donne les ordres et tu obéis. » Paul aurait pu le dire. Ce n'est pas ce qu'il fait ici. Il dit « C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. » Et cette requête concerne Onésime. Paul a eu le temps certainement d'entendre l'histoire d'Onésime et il a compris que les faits étaient graves. C'est grave ce qui se passe. Et ce qui est remarquable dans cette lettre, c'est que Paul n'esquive pas les torts. Paul ne fait pas comme s'il ne s'était rien passé. Paul ne diminue pas la gravité des faits. Il ne dit pas à Philémon, c'est pas grave, c'est une petite peccadille, laisse tomber. Paul sait ce qui s'est passé. Il sait que Onésime est un esclave, il est hors la loi, il doit être capturé, il doit être livré à son maître. Et son maître a le droit de le punir. Quand on sait que Paul était l'ami de Philémon, on s'attendrait à ce qu'il appelle la garde. C'est ce qu'un bon ami est censé faire dans le monde, hein. On dit toujours que si quelqu'un frappe mon ami, ben, j'allais frapper celui qui frappe mon ami. Mais ici, Paul ne traite pas Onésime de cette façon-là. Pour deux raisons. Première raison, nous apprenons que pendant sa fuite, Onésime était devenu chrétien. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Onésime n'a pas changé de religion, parce que la religion, ça ne sauve pas. Il y a une transformation dans son cœur. Il y a une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus ici. Il s'est passé quelque chose. C'est ce que Paul dit au verset 10, il dit « Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, sous-entendu mon fils spirituel, Onésime. » Quand j'ai lu cette lettre, j'ai essayé de faire un exercice intéressant que je vous invite à faire ce matin. Mettons-nous à la place de Philémon, hein, il y a 2000 ans, hein, on a habillé avec une espèce de drap de lit sur nous, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de boîte aux lettres, il y a du courrier qui arrive, un messager qui envoie la lettre. Philémon déballe la lettre, il reçoit des nouvelles de son ami Paul, hein, salutations, que la grâce et la paix te soient données. Philémon a dû se dire, chouette, des nouvelles de Paul. Il apprend que Paul est en prison, il se dit, je vais prier pour lui. Et puis, il avance dans la lettre et Paul lui dit, j'ai retrouvé ton esclave, c'est celui qui t'a volé. Il est devenu chrétien, c'est ton frère en Christ, et je te le renvoie. Comment aurions-nous réagi à la place de Philémon, hein? Comment aurions-nous réagi? Onésime avait remis sa vie en ordre avec Dieu, et quand on remet sa vie en ordre avec Dieu, on est poussé à remettre sa vie en ordre avec les autres, si on a fait du tort. Dans ce cadre, Onésime savait qu'il avait mal agi, il a eu suffisamment confiance en Paul pour lui partager sa situation, et Paul a dû lui dire, si tu as un problème avec ton frère, tu vas aller le trouver, tu vas te réconcilier, et puisque ta fonction c'est d'être esclave, fais ton travail fidèlement. Paul a dû lui dire quelque chose comme ça. Donc, premièrement, une des raisons pour laquelle Paul s'est comporté de façon gracieuse, il avait affaire ici à un frère en Christ. Deuxièmement, et certainement la raison la plus importante, si Paul n'a pas fait payer sa faute à Onésime, c'est tout simplement parce que Jésus n'a jamais agi ainsi à son égard, alors que Paul était un meurtrier. Quand on fait connaissance de l'apôtre Paul dans la Bible, toute première fois on le trouve dans Actes 7, 8 et 9, on découvre un meurtrier. C'est pas le gentil petit bonhomme qui est dans les églises et qui sert le Seigneur. C'est celui qui traque les chrétiens, qui les jetait en prison. Dans le livre des Actes, s'il y en a bien un qui devait être éliminé, c'est Paul, c'est l'ennemi numéro un des chrétiens. Pourtant, qu'est-ce que Jésus a fait à Paul? Il ne lui a pas rendu la monnaie de sa pièce. Il l'a pardonné, il l'a restauré, il a fait de lui un apôtre. Dans toute cette lettre, nous constatons que Paul a retenu la leçon. Il imite Jésus. Il se comporte exactement à l'égard d'Onésime, comme Jésus s'est comporté à son égard. Paul ne réduit pas la gravité du mal qui était fait, c'est grave, mais sachant qu'Onésime était sincère dans sa démarche, repentant, Paul s'est porté garant pour lui. Il s'engage même à répondre de ses actes. Verset 18 et verset 19, nous lisons, « Si Onésime t'a fait du tort, ou tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. » Il faut quand même le faire, hein. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai. Je ne sais pas ce qu'Onésime avait volé, j'espère qu'il n'avait pas volé beaucoup, parce que ça va faire beaucoup pour l'apôtre Paul qui en plus était en prison. Ce que fait Paul ici, c'est tout simplement mettre en pratique le message de l'Évangile dans des rapports avec les autres, avec le prochain. Martin Luther, le père du protestantisme, lorsqu'il a lu cet épître, il a écrit un commentaire, et dans son commentaire, il a écrit ceci. Nous sommes tous les Onésimes du Seigneur. Paul a dit, mais c'est extraordinaire, Luther a vu en lisant cette lettre, il dit, c'est extraordinaire ce qui se passe. On pourrait se mettre à la place d'Onésime. C'est exactement comme ça que Jésus nous a traités. Et effectivement, nous pouvons dire merci Seigneur de ne pas nous traiter comme le mériteraient nos actes. Merci Seigneur de ne pas nous traiter comme le mériteraient nos pensées, nos intentions. L'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est Jésus qui répond de nos actes à notre place. C'est lui qui rembourse les dégâts causés par notre péché. C'est lui qui paye le prix. Et ce prix qu'il paye, c'est sa vie. Si le péché exige réparation, si le coupable doit être condamné, si justice doit être faite, hein, on parle souvent de justice, hein, quand quelqu'un vole, on dit « Ah, il doit restituer les biens ». Si justice doit être faite, eh bien Jésus dit « Je me porte garant pour eux. Je réponds de ma vie ». Voilà pourquoi Jésus-Christ dira aussi « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi nous appelons tous les pécheurs, à commencer par nous-mêmes, à venir à Jésus-Christ, à prendre un nouveau départ avec lui, à laisser le Seigneur régler notre dette, à accepter qu'il l'a payée. L'épître à Philémon illustre parfaitement ce qui s'est passé à la croix, et c'est quelque chose que nous ne devons jamais perdre de vue. Souvent dans nos églises évangéliques, on parle du message de l'Évangile, et je dis « Amen, on a raison », mais parfois ça devient juste un discours religieux. On doit se rappeler « Christ est mort à notre place ». Voilà ce qu'il a fait. Paul va même beaucoup plus loin. Il demande à son ami de traiter Onésime comme si c'était lui. Ouf. Il dit ceci au verset 12 et au verset 17. « Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. » De nouveau, il s'agit aussi d'une magnifique illustration de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous donne sa justice. Il y a un transfert à la croix. Jésus me donne sa justice, et il prend mon péché. À nous qui croyons en Jésus, cela devrait être à la fois une source d'encouragement, ça veut dire que tout est accompli, même en étant chrétien, parfois on peut être étouffé par la culpabilité en disant « ça ne va pas ». On doit se rappeler, Christ intercède pour nous, Christ a tout payé. Et cela devrait également nous interpeller sur le fait que, comme l'apôtre Paul, nous sommes appelés à être imitateurs de Jésus-Christ dans nos rapports avec notre prochain. Le message de l'Évangile n'est pas que quelque chose à savoir. Quand on l'accepte, ça doit imprégner notre vie. On doit le sentir dans notre façon de nous comporter à l'égard des autres. Donc, première idée, imiter Jésus, incarner l'Évangile. Deuxième idée que nous allons retenir ce matin, la place du pardon. Et plus particulièrement, le pardon entre les chrétiens. Parce que même nous, les chrétiens, nous pouvons nous disputer entre nous. Le pardon entre les chrétiens. Le pardon, c'est d'ailleurs ce qui caractérise la foi chrétienne. Quand on réfléchit à notre foi, quand on réfléchit au message de l'Évangile, c'est Dieu qui offre son pardon en Jésus-Christ. Chaque fois que nous ouvrons notre Bible, Dieu se révèle. Quel Dieu se révèle à nous? Le Dieu qui veut offrir le pardon. Si je me dis enfant de Dieu, si je me dis enfant du Dieu qui offre le pardon en Jésus, si je me dis disciple de Jésus, adepte de ses enseignements, imitateur de sa vie, mais que je refuse de pardonner à celui qui m'a offensé, je suis un hypocrite. Jésus met en garde d'ailleurs dans Matthieu 6, il donne la prière du Notre Père, et juste après Jésus dit ceci, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Comment peut-on savoir que quelqu'un a pleinement compris le message de l'Évangile? Parce qu'il a capté l'amour de Dieu, cet amour l'a transformé, déborde, et il est capable aussi de manifester de l'amour. Et ça se traduit aussi dans le pardon. Le pardon est une puissance spirituelle, il faut le rappeler, ce n'est pas simplement qu'un acte anodin de bonne éducation, c'est une puissance spirituelle qui libère. Par le pardon en Jésus, nous pouvons vivre en harmonie avec Dieu, libérés du péché, libérés de son emprise. Et par ce même pardon, nous pouvons également vivre avec notre prochain, malgré le péché. Notre prochain, ça commence par notre famille, notre église, les non-croyants. Le pardon est une réalité qui peut être difficile à vivre, individuellement. Parfois, à titre personnel, on peut être blessé par quelqu'un, des mots, des intentions, des gestes qui peuvent être dits, souvenirs du passé, ça peut arriver. Le pardon peut être difficile à vivre au sein d'une famille, ça arrive, et c'est même plus fréquent qu'on l'imagine, des familles qui se disputent, la maison de l'oncle et de la tante qui tirent sur la maison des parents. Le pardon peut être une réalité difficile à vivre dans une nation. Je pense par exemple à l'Allemagne, Première Guerre mondiale, ils ont été humiliés, on leur a fait porter le chapeau pour tout ce qui s'est passé pour la Première Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, ils ont pris une revanche. Hitler a fait sauter le wagon, on avait signé l'armistice. Le pardon peut être quelque chose qu'on a difficile à vivre au sein d'une nation. Et plus douloureux, le pardon peut être difficile à vivre au sein d'une église. Il y a des églises qui ont été blessées par des divisions. Des églises qui ont été tellement secouées que la souffrance a fait naître la méfiance, l'amertume et parfois la rancune dans le cœur des membres. Et quand ça arrive, c'est une tristesse. C'est la joie du Saint-Esprit qui s'est envolée. Il n'y a plus rien. Et là, il y en a un qui se frotte les mains quand ça arrive. C'est le diable. Que le Seigneur nous accorde la grâce de bâtir nos vies, notre famille, de bâtir notre Église, non pas sur les bêtises des autres et la souffrance que ça peut occasionner, mais sur Jésus seul. Si nous choisissons le pardon, Jésus peut protéger notre cœur quand les autres nous font mal, quand il y a des situations qui peuvent blesser. J'aime bien dans les psaumes quand le roi David dit que l'Éternel est sa haute retraite, sa forteresse, son rocher. Moi, je m'imagine toujours une falaise et il y a les vagues qui s'abattent dessus. Ben, la falaise, elle ne bougera pas. Jésus peut protéger notre cœur quand des gens peuvent nous blesser, quand des gens nous tirent dessus. Jésus peut guérir notre cœur. Jésus peut nous donner la force de pardonner et de nous libérer de toute amertume, de toute rancune et de toute tristesse. Il peut de nouveau réjouir notre cœur, une joie qu'on peut vivre en Église, malgré les blessures du passé. Ce qui frappe aussi quand on lit dans l'Épître à Philémon, c'est que Paul mentionne également l'Église de Colosse comme destinataire. Tout début de la lettre, il cite un certain Archip, Aphias, enfin, c'est des noms assez curieux qu'on n'aimerait plus aujourd'hui, mais il cite des personnes, et il cite l'Église de Colosse aussi, hein, il dit l'Église qui se réunit dans ta maison. La lettre s'adresse directement à Philémon, c'est une lettre personnelle, mais la situation concerne son Église tout entière. Et il en est ainsi pourquoi ? Parce que ce sont deux chrétiens qui se disputent. Et quand deux chrétiens se disputent, deux membres de la même famille spirituelle, les autres ne peuvent pas rester indifférents, ne peuvent pas se réjouir, ou on ne peut pas faire comme si de rien n'était quand il y a deux frères qui se disputent. Deux chrétiens qui en plus vivaient sous le même toit. Quand il y a un litige entre chrétiens, pour des affaires mineures, des affaires domestiques, la Bible recommande vivement de régler nos affaires entre nous et de façon fraternelle, plutôt que de laver notre linge sale sur la place publique et devant des incroyants qui n'ont que faire de Dieu, ou qui pourraient même utiliser ça pour critiquer. Dans cette lettre, nous apprenons que la communion entre deux frères est brisée. D'un côté, il y a Philémon qui a subi des pertes à cause du départ d'Onésime, et en tant que partie lésée, il a le droit d'exiger des réparations, et en tant que maître, il a le droit de punir son esclave, c'était la loi, et d'un autre côté, il y a Onésime qui, pour x ou y raison, est parti, en volant son maître en plus. Quand la communion est brisée entre des frères et sœurs en Christ, il n'y a qu'un seul chemin pour rétablir la communion. Et ce chemin, c'est le pardon. Il faut savoir peler son oignon avec la personne avec qui on a un problème. Et le pardon, c'est un chemin aussi à double sens. Parce que le pardon n'est possible que si je suis prêt à pardonner à l'autre, ou pardonner aux autres, s'il y en a plusieurs, et si je suis capable de demander pardon. De regarder aussi ce qui se passe dans mon cœur. Celui qui a mal agi doit reconnaître ses fautes, il doit confesser sa faute, dire ce qui est mal et y renoncer, demander pardon, son regret par rapport à ça. Et celui qui a été lésé doit pardonner. Ce n'est pas simplement « je te pardonne », mais il doit le relever, le rétablir pleinement. Sans cela, il ne peut pas y avoir de communion. Sans un véritable pardon, il n'y a que de la haine ou de l'hypocrisie pour sauver les apparences. Vous savez, c'est pendant la tasse de café, quand on prend son café, et alors on se met dans le coin de la pièce où l'autre n'est pas. Et alors, c'est un petit peu comme des aimants qui s'opposent, là. C'est parfois assez intéressant d'observer ce jeu-là. C'est un jeu hypocrite. Le pardon, c'est précisément ce que Paul demande à Philémon ici. Verset 12 et verset 16, nous lisons « Je te renvoie Onésime, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Accueille-le non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. » Et il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Paul demande ici à Philémon d'accueillir Onésime. Il demande de bien le recevoir. Et ça, c'est beaucoup plus que de la simple politesse chrétienne. C'est beaucoup plus que du politiquement correct. Il s'agit de le considérer comme un frère bien-aimé. C'est quelque chose qui doit se sentir, pas simplement en disant bonjour, tasse de café, ça se finit, c'est dans les rapports quotidiens, dans la vie de tous les jours. C'est ce que Paul veut dire quand il dit « sera-t-on frère bien-aimé dans vos rapports humains ?» ou certaines versions traduisent par « dans la chair », sous-entendu, il est ton frère aussi dans la chair, dans le sang, uni par le sang du Christ. C'est de cette façon aussi que nous devons être prêts à pardonner et à relever les autres, en renonçant à notre droit d'exiger des réparations, en renonçant à la vengeance, en renonçant à ce penchant naturel de dire « je vais me faire justice, je vais lui régler son compte », en étant prêt à accueillir l'autre, en étant prêt à relever l'autre au point de le considérer comme un frère. Et c'est aussi de cette façon que nous devons savoir demander pardon, prendre son courage à deux mains, se laisser conduire par l'amour du Christ et demander pardon à l'autre si on l'a blessé. C'est en effet de cette façon que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ et qu'il a fait de nous ses enfants, des frères et sœurs. L'Écriture nous montre donc qu'en Christ, les relations entre chrétiens sont censées être familiales et elles sont censées être caractérisées par le respect et le pardon réciproque. Et il en est ainsi parce que c'est justement dans une famille que la pratique de l'amour et du pardon sont le plus difficiles. Il y a un adage populaire qui dit à juste titre que ses amis on les choisit et sa famille on les choisit pas. Sa famille spirituelle on ne les choisit pas non plus. Quand on arrive dans une église, il y a des gens qui étaient là avant nous, il y a des gens qui viendront après. On ne décide pas qui est là ou qui n'est pas là dans une église. Et dans les personnes qui sont là, il y a des caractères. Il y a parfois des gens avec qui ça va aller, des gens avec qui ça va moins aller. Plus que jamais, le pardon est une nécessité. Troisième idée, et je terminerai courtement par cette idée-là qui est soulevée dans l'épître à Philémon, c'est la place de l'accueil dans l'Église. Comment est-ce que j'accueille l'autre dans l'Église? L'épître à Philémon attire enfin notre attention sur l'importance de l'accueil que nous faisons aux autres dans l'Église. Voilà pourquoi Paul a voulu que sa lettre soit connue de toute l'Église de Colosse. Il voulait que toute cette Église, tous les membres, entendent ce qu'il a à dire à Philémon sur cette situation. Alors, comme nous l'avons vu, ce qui est interpellant dans cette épître, c'est que nous avons affaire d'un côté à un maître, Philémon, à un maître qui est riche. C'est quelqu'un qui, aux yeux de la société de l'époque, était tout ce qu'il y avait de plus respectable, de plus honorable. Et d'un autre côté, nous avons un esclave, Onésime, ce qu'il y a de plus méprisable, un esclave. Et en plus, un esclave qui est dans cet or. Pourtant, dans cette épître, Paul ne désigne jamais Onésime par son rang social. Il ne dit pas « accueille l'esclave, accueille le voleur ». Il est au contraire un frère bien-aimé, précise Paul. Comprenons ici que Paul invite les croyants à voir ce qu'il y a de plus misérable, un esclave dans la lettre, comme Dieu le voit. Essayez de voir les autres comme Jésus-Christ les voit. Ça, c'est un défi pour nous qui sommes chrétiens. Souvent, on a tendance à catégoriser les gens. Il y a une tête qui nous revient, une tête qui ne nous revient pas. Lui, il est jeune, lui, il est plus vieux, lui, il est plus gentil, lui, il est plus méchant. Dieu ne va pas nous catégoriser. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Il nous aime. Il a été jusqu'à voir des lépreux, des gens qui étaient malades. Voir comme Dieu voit. Paul invite ici à ne pas catégoriser les gens selon leur rang social ou d'autres critères, mais à les voir comme Jésus les voit. Dans le cas d'Onésime, il s'agissait d'un chrétien, repentant, qui avait le droit d'être accueilli au même titre que les autres. Ainsi, dans la perspective de Paul, l'Église, la communauté des croyants, la famille spirituelle, la famille locale, en quelque sorte, est le lieu par excellence où les catégories sociales disparaissent, mais pas simplement que les catégories sociales, où tout ce qui est susceptible de nous diviser doit disparaître, parce que nous sommes un en Jésus. C'est ce que Paul dit en Galates 3:28. Il dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif », et ils se disputaient bien à l'époque, et encore aujourd'hui. « Il n'y a plus ni esclave ni homme libre », tiens, c'est le cas de la lettre. « Il n'y a plus ni homme ni femme », plus de guerre des sexes, « car vous êtes tous un en Jésus-Christ ». L'Écriture nous montre que la façon dont nous accueillons les autres reflète notre compréhension de l'amour de Dieu. Je répète, la façon dont on accueille les autres manifeste ce que nous avons compris de l'amour de Dieu. Alors bien entendu, accueillir les autres, ça ne veut pas dire caresser tout le monde dans le sens du poil et faire comme si de rien n'était. Jésus, quand il a eu la femme adultère, il l'a accueillie, mais il a dit « va et ne pêche plus ». Dans le cas de Philémon, il s'agissait d'accueillir un frère repentant. Si Paul exhorte Philémon à accueillir quelqu'un qui lui a fait du tort, c'est dire que nous avons la responsabilité d'autant plus d'accueillir toutes les autres personnes qui viennent dans l'Église. Nous ne pouvons certes pas avoir des atomes crochus avec tout le monde, et c'est vrai que plus une Église grandit, plus c'est difficile de connaître tout le monde, mais au minimum, nous savons manifester de l'amour simplement en accueillant les autres, pas en attendant que les autres le fassent. Parfois, il y a un petit jeu intéressant. Je me dis, oh, on arrive en premier à l'église, alors on ne va pas accueillir les autres parce que j'étais là avant, c'est les autres qui doivent dire bonjour. Ben, accueillir les autres, simplement. Ça peut faire la différence. Il y a des non-chrétiens, parfois ils mettent les pieds dans une église et ils ne reviendront plus après. Parce que ce sont les 10 premières minutes qui se font une idée de ce qui se passe. S'ils n'ont pas été accueillis, ben, nous savons au minimum nous saluer les uns les autres par un saint baiser, ou en Angleterre c'est une sainte poignée de main, et non pas attendre que les autres le fassent. Nous savons au minimum nous enquérir de la situation d'un frère ou d'une sœur pour qui l'Église prie, et ne pas attendre que ce soit le pasteur qui le fasse parce que c'est son travail. Le pasteur n'est pas Dieu, il ne peut pas être partout à la fois. C'est ce que Paul a voulu dire aussi aux Romains quand il a écrit au chapitre 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Ce sont des pistes toutes simples, mais si elles sont mises en pratique, elles peuvent modifier l'atmosphère d'une église. C'est comme ça qu'on peut construire un endroit où il faut être bon de vivre, un endroit où il y a de la joie, un endroit où Dieu est glorifié, un endroit où le pardon n'est pas simplement un discours évangélique, mais une réalité. En conclusion, l'épître à Philémon n'est certes pas la plus grande des épîtres, il n'y a qu'un chapitre, mais entre les mains de Dieu, encore aujourd'hui, ça reste un chef-d'œuvre. Dieu se sert de ça encore pour nous parler aujourd'hui. Par cette lettre, Dieu interpelle les croyants sur la façon dont ils mettent en pratique ce qu'ils ont compris de Dieu. Ce que j'ai compris dans ma tête, est-ce que c'est descendu dans mon cœur? Est-ce que je le vis? Est-ce que je le mets en pratique? Le Seigneur nous rappelle aussi qu'il a tout payé pour nous. Il nous invite à aimer suffisamment les autres au point de savoir les pardonner, leur pardonner ou leur demander pardon, et au point d'accueillir les autres dans leurs différences. Je terminerai juste en lisant quelques mots de l'apôtre Paul, c'est des mots qu'il a écrits à l'église d'Éphèse, voici ce qu'il nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. » Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, la Bible. C'est extraordinaire ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Ton amour a été jusque-là. Nous voulons te remercier parce que tu nous donnes aussi ton pardon. Nous n'avons rien fait pour ça, nous ne le méritons pas. Et nous voulons demander, Seigneur, que ce pardon ne reste pas simplement une réalité que nous vivons individuellement, mais que nous puissions la vivre aussi pour les autres. Seigneur, enseigne-nous à pardonner comme toi tu nous as pardonné. Nous voulons faire la différence, Seigneur, et laisser couler ton amour. Je te prie pour l'église de Tigny, Seigneur, tout particulièrement, et je te demande que tu bénisses cette église. Merci pour leur pasteur, merci pour la présence des frères et des sœurs qui sont là. Merci de ce que tu as à l'œuvre d'une façon invisible, Seigneur. Glorifie ton nom, et que ta parole se répande dans ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen.